deuxième temps d'une semaine consacrée à l'histoire de l'amour après le droit au corps du conjoint au Moyen-Âge dont nous avons parlé hier. Nous vous parlons ce matin de flirt. C'était il y a 50 ou 60 ans, mais c'était il y a un siècle. Pour parler de sexe, on y usait d'un argot et de termes parfois vulgaires ou encore de métaphores fleuries. C'était selon. À l'écoute du documentaire de Fabienne Castarosa et Séverine Cassard, diffusé ce matin, on est en effet frappé de la distance qui nous sépare d'un univers oublié, celui du flirt. Quand les corps se rapprochaient, quand les mains exploraient le corps de l'autre, mais se retenaient, quel était donc ce jeu sexuel et sexué qui devait éviter d'aller trop loin? C'est ce que raconte D'une libération à l'autre. Les conquêtes du flirt, un documentaire de Fabienne Castarosa et de Séverine Cassard, avec les témoignages d'Elisabeth Sépède, de Pierre Maillot, de Rose-Marie Dubrault-Sourdin, de Philippe Labro, d'Hervé Prudon, de Maïté Vienne-Villacampa. C'est jusqu'à 10h dans La Fabrique de l'Histoire ce matin. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight.
Ah, la nuit est vraiment merveilleuse ce soir.
Tu sais que je te trouve assez gironde.
Attends une seconde.
Excuse-moi, non, ça c'est parti comme ça. C'est idiot, ça c'est peut-être le, c'est probablement le whisky, je sais pas, je me sens pas très bien.
Non.
Je crois quand même avoir le droit de te demander ce qui se passe.
Je vais pas jusqu'au bout.
À l'époque, les filles couchent pas. Elles embrassent, d'accord. Elles rient avec vous, elles plaisantent, mais on va pas au lit.
Le flirt, si j'ai une définition à en faire, c'était le désir. C'était pas le plaisir, c'était vraiment le désir.
Le flirt, c'était un jeu absolument merveilleux. Et un jeu où la parole jouait un rôle important et où les corps se rapprochaient.
Arrête. Écoute, Laurent. Tu chatouilles. Je t'aime bien. J'ai envie, tu sais, moi aussi. J'ai décidé d'attendre. Je veux pas faire l'amour à droite et à gauche. J'attends d'être vraiment amoureuse. Et puis ça me fait un peu peur, pas toi?
Tout le monde, tous les garçons et les filles de mon âge. Ben oui, tout le monde flirtait.
D'une libération à l'autre, les conquêtes du flirt.
C'est lui. Il a quel âge?
16 ans.
Il est mignon.
Les surprise parties, c'était organisé pour que les garçons et les filles se rencontrent.
Surprise partie, la surprise viendra peut-être de faire connaissance avec une fille de votre âge.
Si la mère enceinte, les filles de 16 ans. Tu m'as toujours pas répondu à ma question.
Quelle question?
S'il met enceinte une fille de 16 ans. Put your lips next to
mine. Des mots doux. Des baisers, des caresses, sur ou sous les vêtements. Un peu plus si affinité, mais pas trop. Tout, mais pas ça. Tout, sauf le rapport sexuel accompli. À l'heure de la guerre froide, à l'heure du feu nucléaire, eux aussi jouent avec le feu. Ils ou elles s'appellent Babette, Pierre, Rosemary, Philippe, Hervé, Maïté. Ils ont 15, 16, 17, 18 ans, à la fin des années 1940, dans les années 1950, 1960. Et mus par le désir, parfois la peur au ventre, ils flirtent. Dans les recoins sombres des surprises parties, au dernier rang des salles de cinéma, sur les banquettes arrière capitonnées des voitures ou dans de secrètes alcôves. Ils inventent de nouveaux codes, un nouveau modèle d'éducation sentimentale avec ses lieux, ses temps, ses règles. La pilule n'est pas encore là, ni mai 68, ni la dite révolution sexuelle. Il n'est pas encore interdit d'interdire, mais déjà, les flirteurs reculent les frontières. Ils continuent le travail de sape de la morale bourgeoise héritée du 19e siècle. Les jeunes filles ne sont plus des oies blanches, elles ne sont pas encore tout à fait des jeunes filles libérées. Le temps est venu d'une éducation sentimentale, progressive et partagée. Ensemble, garçons et filles explorent le territoire de l'entre-deux. Ils vous le diront eux-mêmes. Le flirt, c'est entre la timidité et l'audace, entre la pudeur et la flamme. C'est une petite guerre et un rapprochement, une conquête de liberté, de plaisir, de bonheur amoureux, une conquête d'égalité. C'est une révolution sexuelle sans sexe.
Tout d'un coup, en 44-45, le mot est devenu familier. C'était important de flirter et d'avoir à raconter qu'on avait flirté.
Elisabeth Sepet.
C'est lié aux premières surprises parties, la reprise d'une vie sociale, parce que finalement, pendant la guerre, on se voyait moins avec les amis.
Vous alliez au lycée, c'était quel
oui.
lycée ?
Alors moi, c'était le lycée Molière, dans le 16e.
C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert. Sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance.
C'était une période euphorique et la vraie vie s'ouvrait.
Vous aviez hâte de vivre, de compenser les années passées.
J'avais hâte d'aimer. Ma mère et ma tante, qui étaient très proches l'une de l'autre, étaient très sentimentales. Pour elles, le but de la vie, c'était d'aimer. Ma tante, elle était vraiment rigolote. Elle entr'ouvrait la porte pendant qu'on travaillait, ma sœur et moi. Et elle disait, oh, vous travaillez, mes pauvres petites, c'est affreux. Aimer, aimer, aimer. C'était ça le leitmotiv. Alors donc, on ne pensait qu'à l'amour. Et on ne parlait que de ça entre petites amies. Hein. On rentrait de l'école, on se donnait une petite récré, on s'allongeait sur nos lits et on bavardait sur l'amour, sur le sens du mariage. Sur... Ça tient aussi au fait que les garçons n'étaient pas avec nous en classe. Donc c'était une grande libération de sortir, de prendre le métro pour aller les voir chez eux. Vous voyez, on sortait quand même d'une période austère où les garçons vivaient de leur côté, les filles de l'autre. Et donc, c'est une espèce de petite explosion.
On était dans l'obsession de l'autre sexe.
Pierre Maillot.
À partir de l'âge de 14 ans, peut-être un peu plus tôt même pour certains, c'était notre questionnement, notre passion, notre douleur, notre désir, notre espoir, nos rêves. On ne parlait que de ça.
Vous alliez au collège, au lycée ?
Ah ben, je suis allé à l'école primaire, secondaire et même une année de fac à Alger.
Et c'était mixte ?
Ben comment mixte ? Vous n'y pensez pas, mixte. On aurait plus tenu nos jeunes gens, peut-être surtout dans le sud. Des garçons et des filles dans une même salle, je ne sais pas comment la parole du professeur aurait pu porter.
Et dans ce contexte, les relations avec les jeunes filles, ça se passait comment ?
Écoutez, j'ai un souvenir très précis. J'avais plus de 16 ans, j'avais peut-être 17 ans. La première fois où on m'a invité en surprise partie, les mères étaient là. Elles veillaient au grain. On le savait, c'était admis, c'était comme ça. Et on buvait des limonades. Et on dansait des tangos et des valses. C'était en 1953. On est en plein 19e siècle, là.
Et est-ce qu'on dansait des slow dans ces surprises parties ?
Non, pas du tout. On se tenait très loin du corps de la danseuse. Parce que dans la danse, quand deux corps se touchent, l'un peut être ému. Pour nous, c'eût été la honte absolue. Faire sentir qu'on était ému au point qu'on était en train de bander quand on dansait avec une fille, c'était impensable. C'était la honte. On ne pouvait pas faire ça. Donc, je tenais les jeunes filles aux hanches de façon à être absolument certain que nous n'ayons pas de contact.
Babette, alors comment ça se passe, une surprise partie ?
Chacun donc participe. Alors les uns apportent des disques, les autres apportent l'électrophone. Et puis on apporte quelque chose pour le buffet. Et puis on se met sur son 31. C'était une occasion de sortir les jolies robes. Oui. On mettait de la musique, de jazz. On dansait beaucoup sur In the Mood de Glenn Miller. Alors on alternait les vifs. Et puis les slow, c'était l'occasion déjà de serrer son partenaire dans ses bras. Et c'était comme je pense, étaient les balles décrites par Jane Austen. Seulement, c'était plus audacieux. Déjà, les parents étaient exclus. Il était évident que le jour où on faisait une surprise partie, les parents s'en allaient. Donc, c'était une occasion unique, quoi, d'être seule avec plusieurs garçons. Et alors, on guettait les unes les autres, le succès des unes qui pouvait fendre le cœur de certaines. Enfin, c'était... On pouvait se donner des conseils. Je me souviens qu'une fois, j'étais vraiment pas en train, j'avais pas envie de me donner du mal pour personne. Et j'ai une amie qui est venue, elle m'a dit, écoute, Babette, quand même, fais un effort. Celui-là, il est quand même très intéressant. Tu devrais... Bon, on veillait les unes sur les autres. C'était un apprentissage du cœur. J'ai adoré ça. Et je relisais hier mon journal et je vivais dans l'attente des samedis. Vraiment, je vivais pour ça.
Qu'est-ce que vous saviez alors des femmes, de la sexualité ?
Rien. De la sexualité, on en savait ce que c'est la grossièreté du lycéen, et depuis toujours. Je me souviens qu'il y avait, à partir de la seconde, ça on n'avait jamais vu avant, il y avait un magazine, Paris Hollywood. Ça parlera beaucoup aux gens de mon âge, Paris Hollywood. C'était un magazine de femmes à poil.
Complètement à poil ?
Et justement, non. Ce qui était effacé, c'était tous les poils. Et le bout du sein. Donc, ce qu'on voyait, c'était des formes vagues. On n'avait strictement aucune... À moins d'avoir une sœur et qu'elle soit assez libérée ou complaisante pour vous laisser voir ce que c'était qu'un sexe de femme, on n'avait strictement aucune idée. Strictement aucune idée. On savait qu'il y avait un trou. Une fente. Mais on était capable d'imaginer ce que ça pouvait être. Et je crois qu'on n'aurait pas soutenu la vue d'un sexe de femme à 14, 15, 16 ans. Les copains étaient des complices, d'autant plus sûrs qu'ils étaient dans la même situation. C'est par eux qu'on apprenait les choses.
Un de vos amis vous a parlé de son initiation dans un bordel ?
Oui, ben, la fréquentation des putes était, une activité de devoir, presque, pour plus faire figure de puceau, et voilà.
Ça relève de ce qu'on appelait la double morale.
La double morale, oui, bien sûr. Il y avait une morale pour les garçons, une morale pour les filles. Mais nous l'avions intégrée et nous le vivions comme ça, nous-mêmes. On permet aux garçons des choses qu'on ne peut pas permettre aux filles. Et donc, on ne couchait pas ensemble, on se caressait, on s'approchait avec beaucoup de patience, beaucoup de tendresse, beaucoup de timidité, beaucoup d'attention. Dans la découverte du corps.
C'est ça, le flirt ?
Ben, le flirt, c'est ça. Le flirt, c'était entre le premier effleurement d'une main, le baiser sur la bouche, et la découverte du corps de l'autre, mais encore du corps de l'autre, de certaines parties du corps, la partie flamboyante étant strictement interdite. Et il y avait une bonne raison. Vous engrossiez une fille, il fallait l'épouser.
Pas de contraception.
Pas de contraception, pas de compétence. Comment vous dire ? On savait bien comment ça marchait, on n'était pas si con que ça. On savait bien qu'il y avait une pénétration, il y avait éjaculation, il y avait fécondation de l'ovule. On savait tout ça, on l'avait appris.
Donc vous saviez ?
Pas la pratique, on savait même pas comment on pouvait s'introduire dans le sexe d'une femme. Je me souviens que je me prenais la tête à la main, on me disait, comment c'est possible ? Quand je vois ce gros machin que j'ai entre les jambes, mais c'est pas possible, comment mettre ça dans un corps ? Dans un autre corps ? Par où ? On savait même pas que les femmes jouissaient.
Vous pensiez quoi des jeunes femmes et de leur plaisir ou non-plaisir ?
On pensait qu'elles n'en prenaient pas.
Nous, on ne pouvait pas jouir de notre liberté sexuelle. La peur, je crois, dépassait notre envie.
Rose-Marie Dubrosourdin.
C'était difficile à vivre, hein. C'était tellement difficile à vivre qu'on reculait les séances de ça le plus possible. Même si on avait envie de coucher avec le garçon, hein, pour employer les mots comme il faut, il y avait cette peur du danger. C'était dans notre tête sans arrêt. Ça ne sortait jamais de notre tête. Jamais, jamais. La première fois que j'ai embrassé un garçon, moi, je me demandais si j'allais pas être enceinte. Hein, voyez, c'était à ce point-là, à 18 ans. On était d'une stupidité, mais alors à faire pâlir les jeunes de maintenant. Nos mères nous apprenaient rien. Je crois que ça faisait partie de... À la limite, on nous disait, je me souviens de ça par contre, maman disait, tu sais, quand tu vas te marier, il y a des choses que tu devras accepter, que ton mari, tout ça et tout. Alors on avait une peur bleue, on disait, mon Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver ? Tu sais, ça va pas durer trop longtemps, après tout ça, bah, tu penses plus. C'était une horreur, c'était une horreur.
C'est fou parce que maman nous avait donné un petit manuel qui s'appelait La Grande Vérité ou quelque chose comme ça. Et il y avait un dessin de ce qui illustrait les livres de sciences naturelles, mais il n'y avait pas une personne complète, ce qui fait que on n'avait pas du tout idée de ce qu'était un acte sexuel. Je n'avais aucune idée qu'un garçon bandait. Et donc, j'étais un peu étonnée par cette réflexion de l'aumônier qui me dit « Mais enfin, quand vous embrassez un garçon, vous lui faites faire un péché. » Je voyais pas du tout, du tout.
Et quand vous dansiez un slow rapproché avec un garçon, vous ne vous en rendiez pas compte
de... c'est arrivé une fois, oui. Je me suis dit « Tiens, c'est peut-être son porte-monnaie. » Je sais pas, je ne suis pas...
Bête.
Dis-moi.
Ah, bête, j'ai peur.
Qu'est-ce qu'un jeune homme parisien du début des années 1950 sait de la sexualité?
Bah, il ne sait pas grand-chose.
Arrête, bête, il ne faut pas. Non.
Il y a quand même, et ça c'est le grand fantasme, le cinéma. Le cinéma qui à l'époque...
Philippe Labrou.
...importance considérable pour voir sur grand écran des femmes superbes et qui vous accrochent tellement qu'à la sortie... Vous en faites votre fantasme. Pas seulement à la sortie, ensuite le soir chez soi. C'est ça l'adolescence masculine. On faisait à l'époque un truc très amusant, qui évidemment ne se fait plus, puisque ça n'existe plus. Il y avait, sur les devantures de salles de cinéma, il y avait des grandes photos noir et blanc, bien sûr, extraits du film. Et le grand jeu, c'était de les faucher, de les arracher, et de rentrer chez soi avec une photo de Rita Hayworth, d'Ava Gardner, vous voyez, des bombes de sexe américaines.
Je vais te reconduire chez toi.
Pour moi, le flirt, c'est simplement les approches, c'est une certaine tendresse, un tout petit peu de sensualité, mais pas plus. Donc moi, j'attendais d'un flirt que ça aille plus loin.
Physiquement, vous étiez... Coquette, soigneuse de votre personne.
Ah oui, j'étais toujours très bien habillée, très bien pomponnée. Vous savez, on a été la mode un peu de Brigitte Bardot avec les robes Vichy, vous savez, comme ça, à carreaux rouge et blanc ou bleu et blanc. Enfin, moi, en l'occurrence, c'était mauve et blanc. J'avais une écharpe assortie, les chaussures assorties et tout, mauve, les gants, ces jupes-là en Vichy. Et en dessous, il y avait des jupons avec plusieurs volants même. On était très, très élégante. Hein.
Et votre premier flirt, vous vous en souvenez?
Ah oui, c'était en Corse, c'était un blond aux yeux noirs. Un soir, il faisait beau, on était allongés sur le sable, nos mains se sont rapprochées. Il s'est penché vers moi pour m'embrasser, ça m'a fait très plaisir. Et ça a commencé comme ça, quoi, ce petit flirt-là. Et bon, on a continué à se tenir par la main, à se faire des petits bisous. Et puis lui, il aurait bien voulu d'autres choses. Et quand il a commencé à avoir des gestes... qui maintenant paraissent tout à fait normaux. Moi, j'ai pris très peur. Et là, donc, on en est resté à des bisous sur la bouche, quoi, voilà.
Et comment ça s'est terminé?
Ça s'est terminé que chacun, on est rentré à Paris. On s'est retrouvés dans un bal où on allait tous ensemble. Et puis, lui, il est arrivé avec une autre fille. Quand c'est le premier, vous voyez, là, pouf, c'est la chute. Là, vous tombez de l'armoire, comme on dit familièrement. J'ai eu du chagrin et puis le fait que j'étais quand même jeune et tout, je dis, j'avais pas tout à fait 19 ans. Au bout de quelques mois de chagrin, j'ai connu quelqu'un d'autre.
Moi, j'avais pas de flirtatif très parce que j'avais un amour perdu que j'espérais à chaque surprise partie reconquérir. Mais j'étais pétrifiée de timidité et donc je n'osais pas aller vers lui et lui il était très très sadique parce qu'il voyait très bien et il ne faisait pas un pas vers moi. Comment dire ? Au début le flirt me paraissait impensable parce que j'avais cet amour en tête fidèle. Mais quand j'ai vu que finalement j'avais rien à espérer, alors là j'ai trouvé que le flirt c'était un jeu absolument merveilleux et un jeu où la parole jouait un rôle important et où les corps se rapprochaient.
Jusqu'où, pour vous, pouvait aller le flirt?
Pas très loin. Pas très loin et j'étais étonnée. Par exemple, une de mes amies m'avait désigné une petite camarade et lui dit « Oh, tu vois, elle porte pas de soutien-gorge, comme ça c'est plus pratique. » J'avais été sidérée, donc vous voyez, j'avais pas envisagé possible qu'on s'offre à moitié dénudée à un garçon.
Et alors c'est quoi votre stratégie pour ne pas aller trop loin quand vous flirtez avec un garçon ?
Eh ben écoutez, la résistance, j'ai appris la lutte. Ah oui. On tourne la tête.
On s'esquive ?
Oui, on s'esquive, mais surtout, on le quitte pas quand même. Alors, c'est tout à fait... Je sais pas comment vous dire, faudrait filmer, faudrait montrer des images.
Kiss me vite, ma petite. Kiss me vite. Ah, pourquoi tu résistes ?
Journal de Bab, d'Elisabeth Sépède, entrée du 15 mai 1948.
Nous avons dansé en un tendre joue à joue. Il m'embrassait dans le cou. J'adore ça. Il me serrait fort dans ses bras et je m'y trouvais bien. J'aurais aimé que cela durât éternellement. Mais je ne l'ai pas laissé m'embrasser sur la bouche. Ah, ça non. « Vous réfléchissez trop », m'a-t-il dit. « Arrêtez une minute, vous verrez. Après, vous penserez des jours à cette minute. Pourquoi ne voulez-vous pas ? Vous ne savez pas ? Vous avez peur ? Vous devriez me dire tout de suite vos intentions. Mais vous n'en savez rien. C'est toujours la même chose. » Nous avons lutté de toutes nos forces l'un contre l'autre. Et j'ai gagné. Il a essayé de m'embrasser dans toutes les positions. Debout, d'abord, en dansant, puis en me coinçant entre l'armoire et le mur. Mais alors, j'ai si bien caché mon visage dans son veston qu'il ne m'a pas eu. Deux fois pourtant, il en était bien prêt. Il m'avait renversé dans ses bras et il me tirait par les cheveux pour m'obliger à le regarder. Une autre fois, il a essayé de me faire basculer sur le lit. Mais j'ai pu me redresser. Mon Dieu, comme c'est agréable d'être dans les bras d'un garçon.
Les étapes du flirt, ma chère, les étapes du flirt. C'est un long chemin. Pour ma part, j'ai mis 3 ans. Pour arriver à passer du baiser sur les lèvres, ça, on l'a assez vite, on le gagne assez vite. Là, on pouvait commencer à progresser dans la découverte du corps de l'autre. Il ne faut pas imaginer qu'on avait envie de baiser tout de suite. Bien sûr qu'on a envie de baiser tout de suite, mais pas celle qu'on aimait. Celle qu'on aimait, il fallait la découvrir à la mesure même du désir qu'elle avait de vous découvrir. On n'allait jamais contre sa volonté, jamais. C'est très chevaleresque, ça. Dans la loi du rapprochement des deux corps, l'homme fait le travail, il demande, et la femme accepte ou refuse.
C'est elle la maîtresse du jeu.
C'est elle, totalement. Et donc, on avançait progressivement dans la découverte du corps de l'autre, en caressant le cou, puis les épaules, puis les seins vêtus, couverts, puis peu à peu dénudés. Je me souviens de ces défenses incroyables pour dégrafer un soutien-gorge. C'était inouï, les ruses qu'il fallait avoir. Et puis à un certain moment, elle vous aidait en bougeant un peu l'épaule ou en défaisant elle-même ces fermetures très compliquées que nous n'avions jamais vues en face. On ne voyait pas le soutien-gorge.
Oh là là! Cette pouliche, je me la taperai bien.
Hé, hey, salut! Buenas noches! Est-ce que je peux vous déposer quelque part? Hein? On vous a jamais dit que vous étiez le sosie de Connie Stevens?
Vraiment, vous trouvez?
Comment vous appelez?
Debbie. Elle est à vous, cette voiture?
Ah oui?
Est-ce qu'elle bombe?
Oui, assez. J'ai 329 chevaux là-dedans et 6 carburateurs.
Avec cette banquette, on doit rouler sur la soie. J'aime tâter une banquette soyeuse.
Ah oui?
Ouais.
Alors, monter et tâter? Non, je veux dire, toucher là autant que vous voudrez. Venez donc essayer ma banquette.
D'accord.
J'étais habité par l'envie d'aller ailleurs et j'avais une grande curiosité, en particulier de l'Amérique.
Vous étiez où exactement?
Dans une université américaine, bien sûr, qui s'appelle Washington & Lee, qui est en Virginie. J'avais plus 15 ans, j'avais 18 ans.
Le flirt aux États-Unis, c'était très différent du flirt en France ?
Ah ben, bien sûr, c'est organisé le flirt aux États-Unis. On appelle ça « date ». « Do you have a date ?» C'est-à-dire un rendez-vous. Le principe majeur, c'était le week-end, on prend les voitures, parce qu'il y a des étudiants de 18 ans qui ont leur propre voiture, et on va faire des dates avec les filles des collèges disséminés dans la campagne.
Et comment vous expliquez ça, que ça soit très organisé ?
C'est américain, c'est comme ça. Ça date déjà de high school, des années de lycée. C'est le tissu social qui est fabriqué par les parents, parce qu'il faut échanger, il faut se connaître, il faut se parler, il faut être ensemble. C'est le souci de proximité qu'il y a dans les familles. C'est un système social. On voit une jeune fille, on sort avec elle, on bavarde, on flirte un petit peu, on se prend par la main d'abord, on pose la main sur l'épaule si la fille accepte, on lui met la main autour des hanches si elle ne se recule pas avec effroi. Si tout va bien, elle de son côté vous le laisse comprendre. On peut éventuellement aller jusqu'à un baiser dans le cou, parfois même un baiser tout court, c'est-à-dire bouche à bouche. Hein. Ensuite, en général, il y a une retenue de la part de la fille, une barrière. Stop, stop it here, no please, don't do that.
Kiss me quick. Elle semblait prête à tout. Jessica, lui ai-je dit, vous voulez vraiment que je vous embrasse ? Ah oui, a-t-elle dit. J'adore qu'on m'embrasse et qu'on m'embrasse encore et j'aime que cela dure. Je l'ai prise dans mes bras et nous nous sommes embrassés debout contre le lit de Bob. Jessica était une embrasseuse émérite. Elle avait une petite langue fraîche et pointue qu'elle infiltrait comme un dard dans la bouche et qu'elle retirait aussi vite. Elle procédait par petits coups vifs et répétés à la manière des chats quand ils font leur toilette. Et c'était agaçant parce que cela donnait une furieuse envie de retenir au moins une fois cette chose fuyante et délicieuse, mais que je n'avais pas le temps de savourer. Pour pousser mon avantage, je l'ai renversée sur le lit de Bob et elle s'est laissée faire. Je n'avais éprouvé aucun désir pour elle lorsque nous étions entrés dans la chambre de Bob et j'avais mentalement compté les minutes. Et maintenant que Jessica s'offrait ainsi et que ses agaceries m'avaient provoqué, je me prenais au jeu. J'ai eu envie d'elle. J'ai pris mon élan et je me suis vautré sur elle, tentant de capturer sa bouche et fourrageant de mes mains à travers les rubans et les jupons saisis par une sorte d'urgence. Et comme je n'apercevais aucune résistance de la part de Jessica, j'ai voulu accélérer les choses. Soudain, alors, son corps a eu comme un sursaut. Elle a mordu ma langue avec une telle violence et une telle détermination que je me suis écarté d'elle et que j'en ai crié de douleur.
L'étudiant étranger de Philippe Labrou.
Le flirt, c'était le désir, dans tout ce que ça a de frustrant aussi, mais en même temps, c'était l'excitation. Les années 60, par rapport aux années 50, que j'avais déjà vécu, je les ai vécues assez mal.
Hervé Prudhon.
Et puis moi, en plus, j'étais défavorisé par mon poids, qui était un surpoids, comme on dirait maintenant. Et donc, ce n'est pas été des années, au départ en tout cas, qui ont été heureuses.
Des années grises ?
Oui, oui, des années grises. On peut dire ça, des années en noir et blanc, avant, jusqu'à 68, oui. Comme la télé, quoi, comme les années de Gaulle, même le côté yéyé. Moi, je me voyais poète. Je me voyais maigre et poète. Je veux dire, et j'étais gros et j'écoutais du yéyé. Je veux dire, il y a un truc qui n'allait pas là-dedans. Il y avait beaucoup de choses en jeu, quoi. C'était le Vietnam, c'était la Beat Generation, Bob Dylan, qui était un chanteur qui comptait plus pour moi, en tout cas, que les Beatles. J'avais un cercle restreint de 5-6 amis. On faisait partie d'une bande, un peu pied-niquelée, et puis un peu un télo, quoi. Notre prestige venait de là, quoi.
Vous en parliez entre vous, de ces sujets ? Avec les filles aussi ?
Pas tellement. Les filles elles-mêmes étaient... J'ai semblé macho en disant ça, mais elles nous semblaient futiles. Je crois bien qu'elles étaient un peu... qu'elles étaient un peu coquettes. Pas futiles, mais coquettes, à la recherche d'elles-mêmes et de leur libération, peut-être, simplement.
Oh, Daniela, la vie n'est qu'un jeu pour toi. Oh, Daniela, pourtant, ne crois pas.
Vous
vivez un peu dans l'angoisse d'une guerre nucléaire possible. Mais enfin, ça ne changeait pas grand-chose sur le cours de notre existence qui tournait quand même autour de la vie folle. Non, on était très frivoles.
C'était hors champ, l'histoire ?
C'était en dehors de notre compétence, je dirais. Je dirais pas hors champ. En classe, c'était tabou. Jamais un prof n'aurait parlé, sauf un prof communiste, mais... Et encore, la politique était tabou.
Les problèmes politiques, ça vous intéresse pas ?
Moi, je trouve que j'ai assez de soucis avec mes études. De toute façon, chez moi, quand j'ai le malheur d'ouvrir la bouche pour donner mon avis, mon père, il se met à rigoler. Hein ? Finalement, il a raison, parce que moi, j'y connais rien. Moi, je trouve que la politique, ça nous regarde. Par exemple, la bombe atomique, ben, c'est un problème qui nous intéresse.
La politique, ça ne m'intéressait pas, sauf que mon copain était quand même assez politisé.
Maïté Vienne vit la campa.
Puisqu'il était marxiste, matérialiste. Il lisait les philosophes matérialistes. Et moi, je disais, mais comment un être aussi délicieux, aussi fin, peut-il être marxiste ? Moi, c'était ma question. Et moi, j'étais à l'intérieur encore du catholicisme. Je croyais en Dieu, je priais. Et j'étais en plein dualisme. Enfin, il y avait l'esprit, il y avait le corps. Du corps, il fallait faire l'esprit. Il fallait pas faire n'importe quoi avec le corps, parce que c'était précieux. Il y avait tout ça. Et c'était tout le temps, finalement, le flirt, c'était une espèce d'expérimentation du paradoxe. Mais le flirt était toujours précédé, en tout cas, d'un grand intérêt pour ce que pensait l'autre, pour ce que ressentait l'autre, pour la vision du monde de l'autre. Donc voilà, on essayait d'avancer comme ça dans l'époque.
On va se baigner ?
Anne, tu viens de baigner ?
Non, j'ai pas envie.
Ça commence quand, pour vous, le flirt ?
Ça commence à 14 ans, avec une période qui va s'intensifier jusqu'à l'âge de 16 ans. Ce sont les années 60, et c'est à Biarritz, au bord de la mer, près du grand océan sans limite. Donc ça va favoriser les grands sentiments, les grandes émotions. Et puis les plages qui vont être très très importantes. Et le long des plages, les massifs d'hortensia où on pourra se cacher pour flirter abondamment. C'était des planques merveilleuses. Et puis les chambres dans les grandes maisons abandonnées, plus ou moins, en hiver, etc. C'était assez merveilleux.
Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living dog.
Tout le monde flirtait ? C'était pas une mode, mais il faut bien comprendre que c'était Biarritz, une ville de plage, où l'été, les corps se dénudaient. Il y avait une sensualité très très grande, en fait. On se retrouvait en couple.
De couple ?
Oui. On avait des grandes serviettes de bain et on se mettait à deux sur une grande serviette de bain et voilà. Et quand on n'avait pas envie de ça, on s'exilait sur une plage un peu plus loin. Mais le plus souvent, c'était en bande. Quand on se retrouvait, par exemple, en surprise partie, c'était quand même fou parce qu'on avait des grandes maisons comme ça à Biarritz. Il y avait des divans partout, des lits partout. On pouvait passer une journée, une soirée à flirter, tous les couples, là, les uns à côté des autres, comme des espèces de tas de mollusques en mouvement. Et en même temps, personne ne faisait l'amour, là. Je veux dire, on était dans le flirt, mais le flirt à fond. Et le plaisir est là. Le plaisir est là pour le garçon, le plaisir est là pour la fille. C'est des baisers qui durent, qui durent, qui durent. C'est des caresses de plus en plus douces et en même temps de plus en plus parlantes sur le plan du désir. On sent que vraiment, oui, j'ai envie. J'ai envie de ce corps, j'ai envie de cet être. Et je le fais savoir par mes mains et je le fais savoir par la manière dont je suis contre ce corps et avec ce corps. Il y avait des choses à absolument pas dépasser. Il fallait rester à la limite du sexe et surtout pas dépasser cette limite. C'était pas une convention écrite, c'était pas une convention dite, mais en même temps, en ce qui me concerne en tout cas, moi la chose que je redoutais le plus, c'était déjà de rentrer dans des schémas qui étaient les schémas des adultes, et ça m'intéressait pas du tout. Je les voyais tellement mal dans leur peau, mes parents s'embrassaient jamais, je les ai jamais vus se prendre dans les bras, je me disais qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi. Et le pire qui pouvait arriver à ce moment-là, c'était une demande en mariage, ce qui a été le cas au bout d'un moment. et qui était insoutenable. Parce que tout ce qui était intéressant dans ces limites du flirt, c'était justement de sentir qu'on n'avait pas à dépasser quelque chose et que si on se maintenait à l'intérieur de ces limites qu'on se donnait, qu'on acceptait de se donner, alors là, on révolutionnait tout le monde de l'amour.
Mamie de grâce, ne mettons pas sous la gorge à Cupidon.
Il fallait que ça brûle, il fallait que ça soit très ample, il fallait que ça puisse partir comme un voilier.
J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin.
Est-ce qu'il pouvait y avoir de la frustration ?
Ah, il y avait beaucoup de frustration. Une fois, j'avais tenu dans mes bras une jeune fille pendant des heures. C'était très agréable. On se parlait, on s'embrassait, on se caressait, on se touchait un peu. Et puis, rien ne s'était produit, bien entendu. Et je me suis rendu compte après que je n'arrivais plus à marcher. Quand l'homme bande longtemps sans pouvoir aboutir, vous avez une telle douleur dans les couilles que vous pouvez à peine marcher. Un jour, au cours d'avancer comme ça dans notre approche de l'autre, j'avais dû aller assez loin dans l'émotion que je lui procurais pour qu'elle éprouve quelque chose. Je ne m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte par la réaction qu'elle en a eue. Cette réaction m'a laissé pendant des années dans l'interrogation. Elle s'est dressée, elle a remis ses vêtements très vite et elle est partie à toute vitesse en disant « Maintenant, tu vas me prendre pour une putain ». J'ai compris plus tard que ça voulait dire qu'elle avait joui. J'avais rien senti.
Jusqu'où on peut être nu ensemble ?
Quelle est la réponse ?
C'est quand même. Eh ben, si on s'amuse à se dénuder totalement l'un et l'autre, c'est évident que le contrat va pas être facile à respecter. Donc forcément, il y avait beaucoup de petites culottes et de jeans entre le garçon et la fille. J'ai jamais vu le sexe du garçon avec qui je flirtais à mort. À mort à vie. Et lui n'a jamais vu le mien. Donc c'est quand même étonnant cette histoire. Et un jour où il y a eu un flirt qui a été un peu plus poussé que d'habitude, j'étais avec une amie qui était avec son copain, donc on était quatre dans une maison. Et après cette nuit de flirt intense, les deux copines, on s'est regardées au petit déjeuner, on s'est dit, on ne sait même pas si on est encore vierge. Effectivement, on était vierge le matin.
J'ai trouvé des lettres dans ta chambre. J'ai beaucoup de chagrin, Frédéric, parce que ces lettres ne sont pas de ton âge. Je voudrais caresser ton corps, embrasser ta bouche, je voudrais te prendre dans mes bras. C'est des lettres qu'on reçoit à 15 ans, ça ? Je sais pas, tu fais ce que tu veux, mais à ta place, je déchirerai. Tu veux les déchirer ?
Les parents étaient, mes parents en tout cas, étaient très absents de tout ça. Ils n'osaient pas me poser une seule question, moi je ne parlais de rien. Ils n'avaient jamais vécu ça. Et ils se demandaient ce qu'on fabriquait. Alors bon, je devais rentrer à une certaine heure. Je me débrouillais pour rentrer à peu près à l'heure. Et puis, je me souviens d'un jour où une cliente leur a dit « Ah, madame, oui, j'ai vu votre fille avec un garçon. Il flirtait à la Côte des Basques. » Alors la Côte des Basques, c'est une grande plage de sable merveilleuse, très très belle. Et donc, cette brave dame m'avait vu flirter et mes parents m'avaient dit « Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que tu fais ?» Je lui ai dit « Ben oui, j'étais avec mon copain. » Mais c'est tout. Flirter pour eux, c'était un truc plus ou moins cochon que leur fille faisait quand même. En plus, mes parents étaient droguistes, donc ils vendaient des produits de nettoyage. Et ça briquait par-ci, ça sentait bon l'eau de Javel, donc c'était propre. Et moi, le propre et tout ça, c'était quelque chose qui m'insupportait aussi beaucoup.
Babette, et vous avez beaucoup flirté pendant ces 4 années ?
Eh bien écoutez, voilà, moi je pensais que je ne flirtais pas. Mais quand je relis mon journal, et quand je vous écoute, je suis bien obligée de me rendre compte que je flirtais. Alors ma grand-maman, elle était très choquée, elle a tout le temps été choquée. Elle mesurait mes décolletés, mais enfin, Elisabeth, cache tes bras, on voit ton dos beaucoup trop. Et évidemment, ma grand-mère racontait que dans sa pension, elles n'avaient pas le droit de faire leur toilette en quittant leur chemise de nuit et qu'on leur avait dit que quand elles rentreraient chez elles, il fallait qu'elles se baignent en chemise et avec du son dans l'eau pour ne pas voir leur corps. Et puis maman, elle était partisane des méthodes nouvelles de liberté pour les enfants et de liberté pour les jeunes filles. Et je pense que quand on a eu 16 et 17 ans, on lui a fait revivre sa jeunesse frustrée. Donc elle voulait nous donner ce qu'elle n'avait pas eu, c'est évident.
Une fille qui couchait était quand même répertoriée, quoi. On en parlait, quoi. C'est-à-dire, c'était un peu... proscrit, je sais pas comment dire, c'était un peu nouveau. C'était simplement un peu nouveau, je crois.
Est-ce qu'une fille qui couchait, elle perdait le respect des copains et des copines ?
Ben, elle perdait un peu de respect et elle en gagnait un autre, gagnait une sorte de prestige. C'était beaucoup plus une grande, déjà.
Ben, moi, j'ai couché avec un garçon. Si, c'est vrai.
Alors ?
Bah rien. Je suis allée chez lui, enfin, chez ses parents. On est monté dans sa chambre, il m'a embrassée sur la bouche.
La bouche ouverte ?
Bah ouais.
C'est dégueulasse.
Mais c'est comme ça, hein ? Il m'a demandé de me déshabiller.
Et tu t'es déshabillée devant lui ?
Ouais. Et il m'a dit de me coucher sur le lit, toute nue.
Et alors ?
Quoi et alors ?
Bah qu'est-ce qui s'est passé ?
Bah rien. Il s'est allongé à côté de moi. Il a lu un Spirou.
C'est tout ?
Bah ouais.
La pilule, on commençait à en parler ?
Au lycée, on n'en parlait pas. Les filles, par exemple, dont on disait qu'elles couchaient, on ne savait pas si elles prenaient la pilule ou pas. Il y avait une sorte de non-dit, de...
C'était anxiogène ?
Non, c'était comme ça, et c'était... on verra bien ce qui se passera. C'était un peu aveugle.
Ça a été jusqu'au bout, une fois. Il était plus âgé. Puis bon, il ne voulait pas s'engager, donc là aussi, ça a cassé. C'est moi qui ai cassé, hein, cette fois-ci. Puis j'avais toujours cette peur de me dire, étant allée jusqu'au bout, si tout d'un coup, je suis enceinte.
Et ça s'est produit ?
Ça s'est produit plus tard, après. C'était quelqu'un qui avait mon âge, quoi, et tout. Et là, le garçon, quand il l'a appris, il s'est sauvé. Il s'est sauvé. Hein. C'était mon fils est né donc en 60, donc 62, c'était fin 61, quoi, voilà. Le grand mot de l'époque, c'était le candidaton. Il fallait surtout sauver les apparences, il fallait surtout pas que les gens sachent. Donc ma mère a tout fait pour me faire avorter. Elle est allée voir mon gynécologue pour me faire avorter. Et j'ai dit non.
Carole ?
Quoi ?
C'est affreux, mais je sens que j'arriverai jamais à contenir mon désir.
Ton désir ?
J'ai terriblement envie de toi.
De moi ?
Ouais. T'es restée sur cette banquette toute la soirée avec ta petite gueule sensuelle et en plus dehors, la nuit est si tiède. Alors là, tu vois, je tiens plus le coup. Tes yeux, ton corps,
oui, mais enfin,
ta voix...
tu sais, très souvent, ce n'est qu'un jeu. C'est comme quand je chiale. Je fais mon numéro.
Oui, mais le désir gronde en moi comme un volcan qui s'éveille et... Et si je savais où t'habitais, au moins, j'aurais pu te raccompagner, mais tu veux pas me le dire, alors c'est fatal. Je veux dire, il faut que tu m'appartiennes, c'est trop tard.
Pipe Labrou, voyez le flirt hein, comme le dernier soubresaut de la morale bourgeoise ou un pas malgré tout vers la libération sexuelle.
C'est un pas, qu'on le veuille ou non. Ça libère un petit peu, effectivement, les carcans, les freins, les préjugés bourgeois ou autres. Hein. Parce qu'il n'y a pas que la bourgeoisie qui opposait des tabous et des interdits à ses enfants. Hein. Donc le flirt a été un des premiers pas vers, effectivement, la libération du comportement homme-femme, sans aucun doute.
Moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment me situer dans ce genre de rapprochement.
soudain permis qui était...
Ce qui dominait au moment des flirts, c'est plutôt le plaisir ou plutôt la frustration ou les deux mêlés?
Ah, c'était un plaisir fou. C'était quand même un plaisir fou, oui. Ça dépendait du garçon, mais si, c'était quand même une espèce de jubilation. Mais bon, c'était pas forcément... je sais pas comment vous dire, c'était s'approcher de l'inconnu ou quelque chose comme ça.
Le flirt, c'était une conquête, mais c'était une conquête de quoi?
Le flirt, c'était la conquête de contre sa propre timidité, contre sa propre éducation, et la conquête du corps de l'autre. C'était une école de courage, de patience, une école d'écoute de l'autre. On ne prend un baiser que quand il est déjà accordé. Il n'y avait pas un combat contre la femme. Il y avait un combat contre les pudeurs de la femme, pour l'aider aussi à se libérer, elle aussi, des pudeurs qu'on lui supposait.
Qu'avait inculqué l'éducation?
Qu'avait inculqué la bonne éducation. Qu'avait inculqué le contexte culturel. La poésie, le roman, c'est-à-dire la culture. Donc le flirt tel que nous le pratiquions ouvrait d'une certaine façon la voie à la libération sexuelle, dans la mesure où ce que nous faisions dans le flirt, c'était construire la conquête d'un corps à travers un amour et une fidélité pour aller vers le couple.
Quelle page d'histoire, oui. J'ai écrit.
Qu'est-ce qui se construisait avec le flirt en termes de...
Je dirais les barricades. Et je dirais, on a... C'est pas qu'on a construit, c'est qu'on a démoli pas mal de... On a ouvert des portes, quoi. On a quand même cassé des murs. Quoi.
Hervé, vous avez eu 17 ans en mai 68. Comment vous avez accueilli mai 68?
J'ai accueilli ça avec une grande joie. C'était vraiment une libération. Il y a des gens qui, des jeunes, qui avaient envie de faire la révolution. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de partir voyager. Je suis parti sur la route, je suis allé en Australie, je suis allé en Inde. Je me reconnaissais dans la Beat Generation, dans Kerouac.
Et vous êtes devenu libre, maigre et poète?
On peut dire ça, oui.
Alors, mai 68, je crois qu'au bout d'un moment, quand il y a trop de frustration, comme ça, au bout d'un moment, il faut que ça explose. Hein. Moi, j'ai vu ce truc de pilule, de liberté sexuelle pour les femmes. Pour moi, c'était extraordinaire. Je me suis dit, mon Dieu, ce qu'elles ont de la chance, les femmes d'aujourd'hui. Moi, je n'ai pas connu ça et j'aurais bien voulu être née quelques années plus tard. Ça a explosé en mai 68, ça aurait pu exploser un petit peu avant, un peu après. Et il fallait vraiment que ça explose.
Moi, j'ai adoré, hein. J'ai adoré, c'est le moment où j'ai eu mon premier enfant, ma fille, qui est une fille de 68 en fait, et les copains venaient chez nous en disant « Ouais, il y a une barricade, regardez-lui ça, et tout ça, et tout ça ». Et moi j'étais mais complètement, mais j'ai pas pu y participer parce que j'avais le bébé dans les bras, quoi. Je descendais pas dans la rue avec le bébé, mais j'ai vécu tout ça comme « enfin ça arrive quoi ». Enfin, tout ce qu'on a pu souhaiter comme imaginons une autre société, créons-la, essayons de vivre sur d'autres bases, avec d'autres critères, essayons de se parler, essayons de penser les choses différemment, tout ça. Moi, j'avais l'impression, effectivement, que ce qu'on cherchait déjà dans notre petite ville de province, on n'était pas les seuls à le désirer. Et finalement, c'est comme si on avait flirté avec l'histoire, en fait, parce que enfin, l'histoire accouchait d'une histoire qu'on avait vécue, pas du tout par rapport à la grande histoire, mais par rapport à notre histoire personnelle, où on avait tellement envie qu'il se passe autre chose. Eh ben, c'était là, sous nos yeux, et c'était extraordinaire, extraordinaire. People try to put us to death, talking about my dreams.
just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation.
Merci à Elisabeth Cepède, Pierre Maillot, Rosemarie Dubrou-Sourdin, Philippe Labrou, Hervé Prudon, Maïté Vienne, Villa Campa. Merci également à Christine Coutard et à l'APA, Association pour l'autobiographie, à Clémence Bourdon et aux éditions Publibook, à Victoire Boussac. Texte lu par Nathalie Canoui et Guillaume Marquet, Archivina Aurélie Marsay, et des extraits de American Graffiti de Georges Lucas, Le choix de Sophie d'Alan Pakula, Le souffle au cœur de Louis Malle, Diabolomante de Diane Curis, La première fois de Claude Berry, La fièvre dans le sang d'Elia Kazan et Dieu créa la femme de Roger Vadim. Prise de son, Laurent Lucas, Laurent Macchetti, mixage, Alain Joubert. D'une libération à l'autre, Les conquêtes du flirt. Un documentaire de Fabienne Castarosa, réalisé par Séverine Cassard.
Un documentaire que vous pouvez réécouter sur le site de France Culture et trouver toutes les informations complémentaires ainsi que le téléchargement de cette émission. Demain, nous repartons au Moyen-Âge pour faire le point sur ce que nous savons aujourd'hui sur l'amour courtois.